CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce MAG. Aujourd'hui, un MAG musical de Dvořák à Bach. On vous parlera de ses compositeurs du 17e et du 19e via pour Dvořák le concert du Chœur de Parisot à voir et entendre à Parisot ce vendredi soir et à peine le lendemain. Quant à Bach, il est l'invité d'honneur de Victor Le Guénec, puisque oui, on est mardi. On le retrouve immédiatement pour la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, et parce qu'on vient de finir un mois consacré à la musique, on cause évangile et passion avec une œuvre magistrale de Bach, La Passion selon saint Matthieu. Jean-Sébastien Bach naît en 1685 à Eisenach, en Saxe, membre le plus éminent d'une des familles des musiciens les plus prolifiques de l'histoire, multi-instrumentiste, luthier réputé et compositeur de concertos, de suites pour instruments seuls, de cantates, de l'art de la fugue et du clavier bien tempéré. Il fera carrière principalement en Allemagne centrale. Père de 20 enfants, dont 4 compositeurs, 7 avec une première femme et 13 avec la seconde, la moitié mourra en bas âge, père aussi d'une œuvre souvent considérée comme l'aboutissement et le couronnement de la musique baroque. Dans cet oratorio, entendez un opéra religieux sans mise en scène, il y relate et commente la passion du Christ d'après l'évangile de Matthieu. Ça constitue, avec la passion selon saint Jean, également de Bach, l'apogée d'une très ancienne tradition remontant au Moyen-Âge, consistant à théâtraliser et chanter les événements menant Jésus à la croix pendant la semaine sainte. La passion est à la mode au XVIIIe, Telemann et Cunao s'y sont frottés, mais Bach nous propose l'une des plus riches et des plus grandioses. Et il articule admirablement son œuvre. Il alterne plusieurs types de chants, les récitatifs, mi-parlés, mi-chantés, proches du texte biblique où sont narrés les événements mis en œuvre par les protagonistes, ça raconte l'histoire. Dans les arias, interprétées par les solistes, la narration s'arrête, mettant tout en pause pour exprimer un sentiment, un commentaire, une réaction. L'arioso, entre les deux, résume tout ça. Puis viennent les chorales, les prières que tous les fidèles connaissent et peuvent chanter, la base de la liturgie luthérienne. Issues de mélodies grégoriennes transformées, de chansons populaires adaptées ou de compositions originales, notamment de Luther. Des mélodies simples, harmonisées à quatre voix où tout le monde doit pouvoir chanter. Chorales dans lesquelles le chœur, accompagné par l'orchestre ou l'orgue, fait participer le public de plusieurs façons, en tant que disciples, soldats, foules, pêcheurs ou autres croyants, bref, le peuple. Il y a 3 couches littéraires pour conter cette histoire. D'abord le librettiste qui scénarise tout ça. Ici c'est Picander, auteur de poésie, de drames et de textes érotiques. Puis ce récit est confié à un narrateur, l'évangéliste, qui donne aussi la parole au protagoniste et fait avancer l'histoire. Et enfin, les chorales choisies par Bach. Le tout s'assemble pour narrer l'affaire. C'est une composition monumentale avec énormément de transitions musicales. L'exercice est colossal au vu du niveau des musiciens. Toute la famille participe. Enfants, cousins, oncles, amis, tous musiciens pour soutenir l'orchestre amateur des élèves de son école. Sa femme et sa fille copient les partitions des différents pupitres. Le 15 avril 1729, vendredi saint à l'église Saint-Thomas de Leipzig. Parfaite pour sa disposition, divisée en 2 parties, un orgue de chaque côté, 2 orchestres de 17 musiciens pour une stéréophonie naturelle, ainsi que 3 chœurs dont un d'enfant, une trentaine de chanteurs au total. Programme de la journée, sonnerie des cloches, cantique, passion première partie, chorale et sermon, puis passion deuxième partie, psalmodie et prière, 5 chœurs dans l'église. Et la musique commence. C'est trop théâtral pour les fidèles, ça les dérange dans leur confort, on ne demande pas au compositeur d'avoir du génie. Une dame se lève, Dieu nous garde, c'est comme si nous étions à l'opéra. Mais la musique continue sur l'ouverture. Un prologue qui commence par la fin et raconte le chemin de croix. 2 chœurs, la foule en mi mineur pour représenter la terre, qui s'interpelle et se répond. Un chœur qui ne comprend pas ce qui se passe et l'autre qui lui explique afin que tous sachent le drame qui arrive. Et par-dessus, tout en haut, surgit un 3e chœur en sol majeur, le ciel qui s'exprime, qui survole le tout avec des valeurs longues, hors du temps, nous invitant à reprendre au début. Une ouverture à la fois humaine et céleste, solennelle et géniale.
Thank you.
dans l'œuvre, Jésus est chanté avec une voix de basse, une partie grave, comme un soutien à toute l'harmonie, comme un soutien à la création. Jésus, seul, pour se distinguer des autres, est accompagné par un ensemble de cordes, comme une mandorle, une auréole exceptée pour les dernières paroles sur la croix, où l'absence de cet accompagnement symbolisant la divinité nous révèle l'humanité du Christ dans la souffrance et la solitude. Toujours soucieux de rendre sa musique plus expressive, Bach, dans l'aria « So is mein Jesus nun gefangen » nous fait entendre deux âmes en peine, soprano, alto, chantant leur tristesse dans un contrepoint magnifique accompagné par un orchestre sans basse. Jésus a été arrêté. Puis survient, tout d'un coup, dans l'autre tribune, le chœur avec beaucoup d'intensité. Le peuple hurle « Lâchez-le, arrêtez !» Ça ne suffit pas. Alors un double chœur éclate avec une extrême violence. L'ensemble de la création se déchaîne contre l'arrestation, puis l'orchestre explose. La nature gronde son mécontentement dans une atmosphère musicale proche de l'orage de la symphonie pastorale de Beethoven. Sur ce, je vous propose de monter les sons et moi je vous laisse. La Passion selon saint Matthieu, un CD à retrouver dans les bacs de votre réseau des médiathèques favoris. Bonne écoute et à bientôt.
Dans cette chronique, elles sont toutes à retrouver, ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques, en podcast sur le site cfmradio.fr. Victor, de la médiathèque de Caylus, on propose une par semaine. Et puisqu'on parle médiathèque, n'oubliez pas que ce vendredi 12 juin à la médiathèque de Nègrepelisse, c'est enquête au Comic-Con, concours de cosplay et enquête mystérieuse, vendredi à 20h30 et jusqu'à 22h à Nègrepelisse. Le 24 juin au château de Nègrepelisse avec le réseau des médiathèques et la librairie, l'effet des livres, c'est le festival Partir en livre avec des lectures, des défis, des ateliers pour petits et grands. Et tant qu'à faire, venez à la médiathèque de Saint-Antonin pour voir l'exposition Graines d'artistes. C'est la grande expo des 6-16 ans qui est affichée au mur. Juste après la musique, dans ce mag, on reçoit le chœur de Parisot. Ils sont une quarantaine à proposer deux concerts ce week-end à Parisot et à Peine.
Wish I was too dead to cry. My self-affliction fades. Stones to throw at my creator. Masochists to which I cater. You don't need to buy. Done. I won't let go till it bleeds.
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag pour un double concert du Chœur de Parisot, vendredi à l'église de Parisot et samedi du côté de Penne. C'est Aline Hameau et Célia Berry qui vont nous lancer l'invitation. Bonjour toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous chantez dans ce chœur depuis déjà un certain nombre d'années. On vous reçoit tous les ans pour annoncer vos concerts de fin de saison, sauf que cette année, il y a un petit changement. Vous avez changé de chef de chœur.
Absolument. Nous avons donc deux chefs de chœur, chef de chant, Soline Vérecke, qui vient de Montauban, au conservatoire de Montauban, et une autre artiste, parce qu'elle est aussi pianiste, Eve Panisset, qui nous accompagne et qui nous sert aussi de chef de chant. Donc ce sont deux jeunes femmes qui très talentueuses, qui nous guident cette année. Nous sommes une quarantaine de choristes et nous travaillons sur un répertoire exigeant, difficile, mais avec joie et bonne humeur.
Vous entraînez quoi toutes les semaines? Vous vous retrouvez là à 40 à l'église de Parisot pour vous entraîner? Comment vous faites?
La salle des fêtes de Parisot, qui est heureusement chauffée en hiver. Et nous nous retrouvons effectivement toutes les semaines pendant 2 heures pour travailler.
Alors, 4 solis et une messe en ré majeur, oui, d'Antonin, et je vais écorcher son nom, Dvorak.
Oui, en fait, Dvorak est un tchèque, et sur le nom qui est écrit avec un R, avec un circonflexe à l'envers, qui fait que le R est prononcé comme un J. Voilà pour la prononciation. Antonín Dvořák est un tchèque, né en 1841, et c'était un enfant très prodige. À 6 ans déjà, il jouait au violon, et ensuite, tout de suite, il jouait dans l'orchestre du village. Et ensuite, il a fait des études sur l'orgue, sur le violon, sur le piano, sur la composition. Et il était assez talentueux, on peut dire. Il était en même temps que beaucoup d'autres compositeurs à l'époque, comme Brahms, qui a reconnu le talent de Dvořák, qui a recommandé un éditeur pour lui. Mais il était père de 9 enfants, dont 3 malheureusement morts en petite enfance. Mais il était très précoce et il a composé beaucoup de symphonies, d'opéras, d'œuvres de messes, des œuvres religieuses. Il avait beaucoup de talent dans tous les domaines. Il n'a pas fait du ballet, par contre. Donc, il n'est pas connu pour ça. Il a fait beaucoup de concerts à Londres. Il a été reconnu par les Anglais comme un compositeur magnifique, majestueux. Et il a été même honoré avec un doctorat par l'Université de Cambridge. Plus tard dans sa vie, il a été invité par la présidente, Jeannette Turber, une américaine assez riche, qui était la présidente du Conseil de sciences et des arts à New York, qui lui a proposé un contrat de 2 ans pour diriger le Conservatoire de New York. Et imaginez, il a hésité pendant longtemps avant d'accepter ce contrat. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on lui a proposé 15 000 $ à l'époque. Je ne sais pas combien ça représente aujourd'hui, mais 15 000 $ en 1880, c'est pas mal, je trouve. Et quand il était aux États-Unis, il a été très intéressé par la musique afro-américaine et indien-américaine. Et donc, beaucoup de ses œuvres après ont une réflexion de ces rythmes, de ces couleurs, de ces musiques qui viennent manifestement d'ailleurs. Et c'est là qu'il a écrit Le Nouveau Monde, son symphonie numéro 9, Le Nouveau Monde, que tout le monde va connaître peut-être des morceaux quand ça passe à la radio ou quand il écoute la musique. C'est assez connu. Le reste de ses œuvres sont moins connues, je pense, et nous, on va chanter cette messe qu'il a écrite, c'était une commande par une riche autrichienne pour son nouveau chapelle qu'il a fait construire. Et c'est une messe qui dure que 40 minutes. Mais c'est une réflexion aussi des travaux des autres à l'époque qui font des messes comme Mozart, comme on connaît, qu'on a déjà chanté. Et voilà, c'est, malheureusement, il est mort à 63 ans, donc assez jeune. Mais ses œuvres vivent toujours.
Alors quand on dit messe en ré majeur, donc Antonin de Vaujac, encore que la messe que vous allez chanter, donc quoi, c'est l'amour de Dieu qui est chanté. Une messe, c'est forcément ça?
Oui, la messe est composée de différentes parties. Il y a le Kyrie, il y a le Sanctus, il y a le Credo. Toutes les messes sont divisées pareillement. Mm-hmm. Donc, et ça finit, il y a l'Agnus Dei qui normalement arrive à la fin. Et donc c'est l'introduction du corps humain avec l'Église et puis la joie de la religion.
Chanté en latin, donc accompagné au piano.
On chante en latin. C'est marrant parce que les paroles, c'est pareil, que ce soit Mozart ou Dvořák, mais c'est la musique qui est différente.
Ah, les paroles, c'est tout le temps la même chose?
Oui, quasiment, oui.
Vous dites quoi, alors?
C'est un peu bizarre, parce que parfois, il y a la réflexion, on connaît les paroles et on veut chanter ça, et en fait, non. Ça c'est Mozart, il faut chanter ça, maintenant c'est Dvořák.
Ouais, du coup c'est pas tout à fait la même chose.
Non.
La mélodie est très différente. Mmh. Et avec Dvořák on a eu beaucoup beaucoup de surprises. On s'attendait à chanter un ré ou un si, et puis non, c'était autre chose. Mmh. Il adore faire des ruptures. Il n'est pas conventionnel en fait.
Non, il essaye, comme il a fait avec le Nouveau Monde, il essaye d'incorporer les mélodies ou les rythmes différents. Et donc, quand il a écrit, quand il était en République tchèque aujourd'hui, c'était beaucoup de danse slave. Il a fait des danses slaves, aussi une partie de sa musique, mais il incorpore les rythmes un peu de les danses folkloriques de la région.
Cette messe donc d'une quarantaine de minutes sera à entendre deux fois ce week-end, vendredi à 20h30 à l'église de Parisot, à partir de 20h30, je viens de le dire, et puis à l'église de Penne le lendemain à 17h30 sur les petits flyers que vous avez que vous distribuez. On voit donc le compositeur, votre chœur de Parisot mis à l'honneur, et puis quatre solistes, soprano, mezzo-soprano, ténor, basse. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, eux?
Ce sont des élèves de notre chef de chœur, donc Soline Verrecke, à Montauban. Ils sont au conservatoire de Montauban et ils préparent une maîtrise de chant. Et donc, on a beaucoup de chance d'avoir des solistes presque professionnels.
Parisot. La soliste soprane, elle vient de Parisot.
Oui. Et vous vous êtes entraînée toute cette année avec eux?
Non, on travaille cette semaine avec eux, avant les concerts.
Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez proposer l'année prochaine, le Chœur de Parisot? Quelle pièce vous allez travailler?
C'est en discussion.
Absolument, oui, rien n'est décidé encore.
Est-ce qu'il est ouvert, ce chœur? Comment on fait pour participer, si on se découvre une vocation?
Alors, il y a un site internet du Chœur de Parisot. Vous pouvez trouver nos coordonnées. Et bien entendu, tout le monde est accueilli, que ce soit des chanteurs amateurs ou ceux qui savent lire la musique. À partir du moment où on aime chanter, on a envie de s'engager, parce que s'engager, c'est vraiment 2 heures de répétition par semaine pendant un an, hormis les vacances scolaires. Et le résultat, c'est ça, c'est un beau concert qui réunit aussi bien des personnes amateurs que des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience du chant, on va dire.
Mais je pense qu'il faut insister également que ça nécessite beaucoup de travail personnel à la maison. Et si on n'est pas vraiment engagé, c'est compliqué, non seulement pour la personne, mais pour les autres. Parce qu'on avance à un grand vitesse.
Deux concerts du chœur de Parisot, la messe en ré majeur d'Antonin Dvořák donc est à entendre à l'église de Parisot vendredi soir et celle de Penn samedi en fin d'après-midi. On vous entendra toutes les deux, Aline Namo, Célia Berry dans ces deux églises. Merci beaucoup et puis bonne dernière répétition là.
Merci. Merci Lisa.
La messe en ré majeur de Dvořák. Vous avez entendu un tout petit extrait. Elle sera à entendre cette messe en entier à l'église de Penn ce samedi à 17h30. Avant ça, à Parisot, vendredi à 20h30, grâce au chœur de Parisot. Ce mag sera à réentendre, comme d'habitude, à 18h et à 21h. Vous pourrez aussi le réécouter en podcast sur notre site cfmradio.fr. Juste après les infos, pour tout de suite, la suite sera depuis CFM Montauban avec